Il est 8h sur Europe 1.
On n'a pas de vague d'annulation à ce stade. On a beaucoup de questions de nos vacanciers sur le pass sanitaire.
Il n'a pas encore gâché les vacances, mais il est déjà une épée de Damoclès sur le mois d'août. Le pass sanitaire a été adopté au Sénat. Il sera discuté cet après-midi avec les députés. Il est toujours dans le collimateur des manifestants.
Ils étaient 161 000 hier dans les rues, bien plus nombreux que la semaine dernière. Et dans les cortèges, ils appellent à la liberté de choix.
Emmanuel Macron est arrivé en Polynésie ce matin. Le chef de l'État a visité le centre hospitalier et croisé des manifestants anti-nucléaires. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Claudia Bertram.
Et puis le phare de Cordouan a remporté son pari. Il est depuis hier classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une victoire pour ce monument construit sous Henri IV pour faire partie des merveilles du monde.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est déjà la fin du mois de juillet. Les professionnels du tourisme sont plutôt contents.
Oui, car leur saison a très bien démarré. Mais l'épidémie qui reprend pourrait leur porter un sacré coup, Maud Descamps.
Oui, des taux d'occupation au plus haut, des records pour certains types d'hébergements comme les gîtes de France, des campings qui font le plein. Le bilan du mois de juillet est bon, nous disent les professionnels du tourisme, mais cela pourrait bien basculer au mois d'août si les restrictions sanitaires se multiplient. C'est ce que craint notamment Nicolas Borin, directeur général de Maeva.
On n'a pas de vague d'annulation à ce stade. On a beaucoup de questions de nos vacanciers sur le pass sanitaire, mais à ce stade, les tendances restent favorables.
Même écho du côté des offices de tourisme. Pour le président d'ADN Tourisme, Christian Morizard, la pandémie pourrait même bouleverser les destinations du mois d'août.
Il est difficile aujourd'hui d'anticiper de ce que sera le mois d'août, mais surtout de l'aspect psychologique, comme cela est perçu par le plus grand nombre d'entre nous. Et je reste persuadé qu'il y a un tel désir de partir, c'est-à-dire que les gens, ils regarderont la carte de France, ils regarderont là où il y a le moindre impact par rapport au virus et ils iront dans des lieux, quitte à changer.
Autre constat fait par les professionnels du secteur, des réservations encore peu nombreuses pour l'après-saison en septembre et octobre.
Maud Descamps.
Et si les touristes devaient rentrer chez eux, les premières impactées seraient les conciergeries.
Ce sont les petites mains de l'hébergement touristique. Elles accueillent, elles nettoient. Mais pendant les confinements, elles n'avaient plus d'activité. Ce mois de juillet, c'est donc une belle reprise, mais surtout beaucoup de travail. Laura Taouchanoff a suivi l'une des concierges de l'île de Ré pour Europe 1.
Avec sa façade blanche, ses volets verts, c'est une maison typique. Les précédents locataires viennent de partir. Le marathon commence pour Sonia.
Sur une maison comme ça, c'est 4 à 5 heures. Ouais.
C'était voilà. Propre quand vous êtes arrivée ?
Pas du tout. Mais c'est pas grave, on a l'habitude.
Il y a du sable.
Voilà. Il y a des cheveux, il y a tout ce qu'il faut dans les salles de bain. On n'est pas là en fait pour juger vraiment si c'est propre ou sale, on fait.
En fait, l'objectif, c'est que quand les gens arrivent, ils s'imaginent que c'est les premiers à louer cette maison.
C'est ça. Tout à l'heure, c'est des Belges.
Vous êtes en retard ?
Ça va, j'ai géré mon temps.
Il y a parfois quelques surprises dans les coins.
Je sais pas comment je vais gérer ça.
Une petite souris qui n'attend que vous. Sinon, vous la laissez, vous direz qu'elle est arrivée après ?
Ouais, je l'ai vue malheureusement. Elle a fini sa vie dans une belle maison. Donc là, on a fini dans les temps. On va accueillir les Belges, voilà.
C'est la course.
On est très fatigués par contre en septembre, ça c'est sûr.
C'est votre tour de partir en vacances après.
Ah oui, exactement.
Bonjour, enchantée. Le voyage s'est bien passé ?
Oui.
Un petit pinot des Charentes.
C'est gentil,
voilà,
merci.
Voilà, le petit savon de l'île de Ré également.
Elle est trop belle.
Et oui, c'est tout en bois. C'est
oui.
Joli. Hein.
Excellent. Bon, bah, bonne vacances.
Merci.
Au revoir.
Bon, voilà. C'est vrai qu'à la fin de la journée, on est content de rentrer. Mais c'est un plaisir parce que quand ils partent, c'est on reviendra l'année prochaine, quoi. C'est surtout ça.
Mais la journée n'est pas terminée. D'autres maisons attendent Sonia, qui en gère une dizaine toute l'année. L'île de Ré, Laura Taouchanoff, Europe 1.
Reste à voir si, avec le retour des restrictions sanitaires, les vacances pourront durer. Hier, le Sénat a adopté le projet de loi du gouvernement en y apportant quelques modifications. Les sénateurs et les députés se réuniront cet après-midi 15h pour tenter de trouver un compromis et éviter une nouvelle navette parlementaire.
Il faudra prendre aussi en compte les milliers de contestataires qui ont défilé hier un peu partout en France.
161 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 50 000 de plus que la semaine dernière. Et dans le cortège, ce qu'on entendait plus que la peur ou le refus du vaccin, c'est le principe de la liberté de choix.
Les lois liberticides, l'obligation vaccinale, c'est inacceptable.
Je conteste l'existence du pass sanitaire. Du pass sanitaire. Sanitaire. Ça, c'est un lapsus amusant.
Je refuse cette ségrégation qu'on veut nous imposer.
Et ça me choque profondément. Je n'ai jamais vu ça.
La parole de manifestants parisiens au micro européen d'Océane Théard.
On a entendu ces revendications à Paris, à Marseille, à Lille ou encore à Nantes, mais on se demande qui les porte.
Oui, qui sont ceux qui, en plein cœur de l'été, défilent dans les rues contre ce pass sanitaire ? Élément de réponse avec Jean-Jacques Herry.
Premier constat, la mobilisation d'hier était extrêmement protéiforme. Des jeunes, des vieux, des élus locaux, du RN notamment, des représentants syndicaux aussi, des soignants. Difficile en fait de réellement caractériser un profil type. Les plus visibles tout de même étaient les gilets jaunes, dont les cortèges l'on pouvait entendre des slogans déjà scandés lors de leurs manifestations passées. Et cela n'a rien d'un hasard, note Jean-Philippe Dubrul, directeur d'études à l'IFOP, qui publie aujourd'hui un sondage pour le journal du dimanche consacré à la mobilisation contre le pass sanitaire.
Plus on se sent gilet jaune, plus on soutient ces mobilisations. Voilà. Chez l'ensemble des Français, 35% soutiennent ou ont de la sympathie pour le mouvement. Bah, chez les gens qui se disent « moi je suis un gilet jaune », c'est pas 35%, c'est 69%.
Le mode opératoire semble aussi correspondre. Des manifestations multiples, dans les mêmes villes, avec plusieurs rendez-vous. Des manifestations parfois non déclarées et souvent un jeu du chat et de la souris qui s'installe avec la police, comme on a pu le voir hier à Paris avec des affrontements sporadiques autour des Champs-Élysées. Il y a quand même une différence notable. Le degré de violence n'a absolument rien à voir avec ce que l'on a pu connaître au paroxysme du mouvement des Gilets jaunes.
Jean-Jacques Herry.
Il est 8h06 dans l'Hexagone sur Europe 1. Avec le décalage horaire, ça fait 20h06 en Polynésie.
Oui, c'est le fuseau horaire d'Emmanuel Macron. Depuis ce matin, il est à Papété. Claudia Bertram, vous suivez ces 4 jours de visite pour Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Il était 5h du matin à Paris quand le président de la République est arrivé dans l'archipel.
Oui, et avant d'enfiler le traditionnel collier de fleurs, Emmanuel Macron s'est fait tester un test PCR et antigénique comme l'exige le protocole sanitaire, avec une équipe médicale qui est montée à bord de l'avion. Et puis, à la descente, le fameux collier de fleurs lui a été passé autour du cou par le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, avant un oréro déclamé par de jeunes Polynésiens. Un art traditionnel qui consiste à souhaiter la bienvenue avec des mots chantés. Au son, vous l'entendez, d'un vivo, une flûte nasale et d'un pahu, une percussion. Le président a ensuite pris la direction du centre hospitalier de Tahiti. Sur le bord de la route, quelques dizaines de manifestants antinucléaires. Emmanuel Macron est particulièrement attendu 25 ans après la fin des essais nucléaires dans la région.
Et il s'est donc ensuite rendu directement au centre hospitalier.
Oui, alors que la situation sanitaire se dégrade, la carte postale depuis les îles attendra encore un peu. Emmanuel Macron a d'abord visité l'unité Covid du centre hospitalier. Et alors que 35% de la population ici a reçu une première dose, c'est moitié moins que dans l'Hexagone, le chef de l'État est venu délivrer un message sur la vaccination.
Moi, mon message est simple à cet égard, se vacciner. Lorsque la science donne des armes, il faut les utiliser. Et donc je veux ici lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner, parce qu'on le voit partout dans les chiffres et sous toutes les latitudes, quand on est vacciné, on est protégé.
Un message donc à l'adresse des Polynésiens, mais plus globalement à l'ensemble de la population française.
Merci Claudia Bertram en direct de Papété en Polynésie.
Et non loin de là, à Tokyo, les Jeux Olympiques battent leur plein.
Mais est-ce que les Français battent leurs adversaires? C'est ça la question, Julien Froment. Est-ce qu'on a eu des bons résultats dans la nuit?
Alors, pas encore de nouvelles médailles. On le rappelle, pour le moment, le compteur est bloqué malheureusement à une médaille de bronze. Mais une nouvelle breloque pourrait venir des tatamis, toujours en judo en moins de 52 kilos. Amandine Buchard, championne de remportant titre, s'est qualifiée pour les demi-finale. Elle a pour l'instant remporté tous ses combats haut la main. Elle affrontera dans le dernier carré la Suissesse Fabienne Correur aux alentours de 10h30. Autre chance de médaille en tennis de table. Cette fois-ci, le double mixte composé d'Emmanuel Lebesson et de Jian Yuan disputera à 13h les demi-finales du tournoi olympique. Il faudra réaliser un exploit contre une paire chinoise numéro 3 mondiale. D'autres Français ont brillé en natation. Par exemple, Marie Wattel s'est brillamment qualifiée pour la finale du 100 mètres papillon en battant le record de France. En aviron, qualification également pour la finale du duo Hugo Bûcheron et Mathieu Androdias en 2-2 couple poids léger. Rendez-vous mercredi, là, avec une belle chance aussi de médaille. En revanche, désillusion en épée pour Yannick Borel, éliminé dès son entrée en lice. Également pour Isaora Tibus, elle, c'est en huitième de finale en fleuret individuel, élimination. Et puis en skateboard, l'une des nouvelles disciplines olympiques, et bien là, Vincent Milou échoue au pied du podium.
Merci beaucoup, Julien Froment, du service des sports d'Europe 1.
On termine avec une victoire bien française, celle du phare de Cordouan.
Il est entré hier dans le cercle prestigieux du patrimoine mondial de l'UNESCO, surnommé le roi des phares. Cet édifice construit sous Henri IV et haut de 67 mètres est le dernier phare habité de France. Après des années de travail et d'entretien, ce classement international est une grande joie pour ceux qui portaient sa candidature.
C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de satisfaction aussi. C'est vraiment tout le bonheur d'avoir maintenant ce monument aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial. Il a été réalisé dans l'esprit de succéder au phare d'Alexandrie. En tout cas, quand Henri IV l'a voulu, l'a décidé, c'était dans cet objectif-là, appartenir aux merveilles du monde. Donc aujourd'hui, cette reconnaissance à l'UNESCO, quelque part, la volonté d'Henri IV est aujourd'hui satisfaite.
Pascale Gotte, la présidente du SMIDEST, le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde, interrogée par Caroline Baudry.
Merci beaucoup, Fanny Marceau. Prochain journal dans une demi-heure.